bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons voir un peu un livre qui s'intitule « La nuit de la mandragore et autres nouvelles » de Patrick Saligné et qui est illustré pleine page, si j'arrive à le dire, par Francis Pralon, que l'on connaît bien aussi. Et c'est publié par les éditions du Perce-Oreille, et je crois que c'est en juin de cette année. Donc un livre tout récent. Alors voilà ce que nous dit la quatrième couverture. Alors, curieux personnage, ceux des 13 nouvelles de la nuit de la mandragore, la bête du Périgord, deux gardiennes d'une âge fabuleuse, des fantômes dans la cathédrale de Sarlat, un livreur perdu et un soldat retrouvé, un accordéon municipal et même la Vierge du Chauffe-eau, un fameux cabinet des curiosités, issu de l'histoire et de l'imaginaire périgourdin, distillé avec malice et générosité par l'auteur Les Marelles. Alors, Les Marelles est un livre, évidemment, de Patrick Saligné, et je crois qu'il est aussi illustré par Francis Pralon. Voilà. Alors, voilà ce qu'on nous dit de l'auteur. Alors, l'auteur Patrick Saligné a créé en 1977, avec ses amis Jean Bonnefond et Jean-Louis Garrigue, le groupe de chansons occitane Peyragudes. Élu à Sarlat, puis à Saint-André-à-Las, il s'investit particulièrement dans la vie associative et l'aide sociale. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire locale et de recueils de nouvelles. L'illustrateur mussidané Francis Pralon est membre de l'Académie des Lettres et des Arts du Périgord. Il était principal de collège et il est à la retraite. Il déborde d'activité, s'est fait connaître en tant qu'affichiste, peintre, céramiste et illustrateur. Voilà. Et il y a en forme de tampon, quoi je pourrais dire, il y a écriture, illustration, édition, impression, et le tout fabriqué en Périgord, ce qui est très bien. Voilà, alors donc, c'est la saison, bien sûr, des cadeaux, ça ne va pas tarder, et ce sont des livres, d'ailleurs, qui sont très bien pour offrir. Alors, donc, la nuit de la mandragore et autres nouvelles, pour commencer, il y a une copie d'un acte qui date de 1766, 5 août, 1766 exactement, et qui est signé De Sartine. Alors, De Sartine, il est né et mort en Espagne. Il remplacera Henri de Bertin, dont on a parlé la semaine dernière, comme lieutenant général de police en 1759. Et il sera ensuite ministre de la Marine de Louis XVI. Alors voilà pour De Sartine. Alors, cette copie s'intitule « Relations curieuses, véritables et remarquables de la mort et des désordres commis » par une bête féroce aux environs de Sarlat, dans le Périgord. Voilà. Alors, c'est pas toujours facile à dire, parce que les S et les F sont les mêmes lettres. Voilà. Donc, on va voir un peu cette bête curieuse, véritable et remarquable. Alors, il vient de paraître, alors je vous donne lecture de ce texte, aux environs de Sarlat, dans le Périgord, une bête féroce que l'on a jugé être un loup enragé. D'une grandeur extraordinaire, cette bête féroce parcourue avec une vitesse incroyable les paroisses de Saint-Julien et de Grosjac. Alors Saint-Julien, c'est Saint-Julien de Lampont actuellement. En vain, nombre d'habitants de l'une et l'autre paroisse voulurent s'opposer au ravage de ce cruel animal. 18 à 20 personnes furent les tristes victimes de la fureur. Cet animal faisait le contraire de la bête du Gévaudan dont il a été tant parlé, car il semblait que celle-ci n'en vouloir qu'aux hommes, au lieu que celle du Gévaudan attaquait les femmes de préférence. Pris en fond sur leur poids, elle héritait son poil et les yeux tout en feu se dressaient sur les pattes de derrière et tâchaient de saisir la victime, tantôt au visage, tantôt aux autres parties de la tête. Pour arrêter les ravages de ce redoutable ennemi, dont les suites fâcheuses ne se faisaient déjà que trop sentir, le sieur Dubex de Descamps, bourgeois de Saint-Julien, donc Saint-Julien de Lampont, comme on a dit, et environ une centaine de paysans de l'endroit auquel se joignirent plusieurs habitants de Mareuil. Alors Mareuil, certainement la commune de Mareuil qui se trouve actuellement, dans le département du Lot et qui jouxte la Dordogne et de Saint-Jean-Lampont. Voilà, alors bien sûr, la bête sera détruite. Et alors voilà ce que nous dit la fin de cette relation curieuse. Alors cet animal est mâle et autant qu'on en a un peu jugé, il n'avait que 12 ou 15 mois. Sa longueur entière est de 4 pieds, 4 pouces. Ses jambes de derrière sont un peu plus longues que celles de devant. Les oreilles grandes et larges, la tête carrée et assez ressemblante à celle d'un renard. museau pointu, la gueule large est garnie de 42 dents tranchantes et affilées, dont 4 sont en forme de crochet. Il a quelques parties ressemblantes à celles d'un lévrier, son poil mêlé de gris et de fauve est moins rude que celui d'un loup ordinaire et approche assez celui du renard. Le seigneur, sensible aux vœux des malheureux et toujours prêt à leur faire sentir les effets de sa clémence, inspira au sieur Dubé de Descamps ce courage et cette activité si nécessaire pour délivrer le pays d'un animal si redoutable. Alors, comme je disais, c'est lui approuvé le 5 août 1766 par De Sartine. Voilà. Alors, bon, la bête du Périgord, bien sûr, il va y avoir une chute, comme dans toutes les histoires. Alors, je ne vais pas vous la donner, et je vais vous laisser la découvrir en lisant, mais ma foi, ce livre, La nuit de la mandragore et autres nouvelles. Voilà. Alors, on va poursuivre un peu la lecture, c'est-à-dire qu'on va remonter le temps. On va remonter le temps, et là, on va se retrouver, pendant les guerres napoléoniennes avec l'Académie des ours. Alors, il y a un petit quatrain en avant. Le grand ours est dans la cage, il s'y régale de miel. La grande ours est dans le ciel, au pays bleu des orages. Alors, c'est de Robert Desnos, et c'est tiré de l'ours qu'on retrouve dans Chante-fable. Alors, cette histoire, l'Académie des ours, se situe pendant la retraite de Russie, en quelque sorte. C'est un soldat de la grande armée qui est blessé, qui va être recueilli par des Russes, des montreurs d'ours. Voilà. Mais une fois rétabli, ils vont entreprendre un périple jusque dans le Périgord. Mais arrivé là, il va y avoir une surprise, c'est-à-dire que le fils du hobereau du coin veut acheter la propriété des parents de ce malheureux soldat. Et pour agrandir son territoire. Voilà. Alors, et bien sûr, il va y avoir quelqu'un, juste une personne, un sarladé, qui peut les sauver. C'est François Fournier, sarlovaise. Voilà. Et donc, on va aller le trouver parce que ce soldat de l'Empire, ma foi, avait une fiancée qui l'attendait patiemment. Voilà. Alors, voilà ce qu'on nous dit pour François Fournier, sarlovaise. Dans les fossés de la Rigaudie, à la hauteur d'Ancien Tour, de l'abbé, le général Fournier tourne en rond en tirant sur sa pipe. Il décolère pas et prend à témoin l'officier d'ordonnance qui l'accompagne. La nouvelle qui vient de lui parvenir a de quoi surprendre. Il n'en faut pas plus pour le faire sortir de ses gonds. Les nouvelles ont mis quelques jours à descendre avec la malle-poste de Paris. Suite à la bataille de Leipzig, le Sénat a déchu l'empereur et celui-ci a choisi l'exil. On dit qu'il va régner à présent sur une île entre la Corse et les côtes italiennes. Voilà. Alors, bien sûr, on connaît la suite. Alors, comment je peux dire, les relations entre Gérald Fournier et l'empereur ne sont pas toujours très bonnes. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Au bout des gants, Napoléon avait nommé cette tête brûlée qui n'appréciait guère le baron de l'Empire et commandeur de la Légion d'honneur, mais les frasques renouvelées et une altercation de trop avaient valu au sarladé une disgrâce définitive. N'avait-il pas osé menacer physiquement Grotte en personne lors d'un désaccord stratégique? C'est-à-dire que je crois que l'empereur avait dit Napoléon avait dit qu'il voulait se faire nommer empereur, et je crois que Fournier, qui faisait partie de l'état-major, avait dit que la meilleure partie de la France était la République. Voilà, évidemment, ça n'allait pas tout seul. Alors on va continuer un peu la lecture de ce texte. Alors, donc, le général ne décolère pas et le général voit venir vers lui, sortant du faubourg Saint-Nicolas, un couple qui avance d'un pas décidé. Il pose sur Mélie et Yasha, donc les deux dames, son regard bien à la fois hautain et arrogant, surtout sur Mélie. On sait que le général apprécie les jolies silhouettes. La jeune femme ne lui laisse pas le temps de s'interroger, elle l'aborde et lui explique avec force la situation de Fanette. Alors Fanette, c'est le soldat qui a été sauvé. La Bérésina, la blessure, l'Académie de l'eau, se retour vers le pays, l'injustice dont ses victimes sont fiancées. Lorsqu'elle se tait enfin pour reprendre son souffle, Fournier garde un instant le silence et cette parenthèse paraît Amélie interminable. Alors voilà ce que va dire le général. Oui, je me souviens de ce garçon, il finit par dire Fournier, il est comme moi, je sais que ce que c'est de ne pas être né, du moins au sens où l'entendent ces messieurs de la noblesse. Je suis fils de cabaretier, sur ma carte de visite, ça n'imposait pas suffisamment le respect. J'ai tracé mon chemin à coups de sabre, c'est moi qui ai conseillé votre homme de s'engager, je sais quel a été l'enfer de la bataille de Studi. Borodianka, l'armée de Wessenstein, celle de Tchitchakov, c'est pas facile à lire, on dit qu'il a volontairement laissé s'échapper l'empereur. Puis ce froid intense, pire que le feu, et il est heureux que votre ami ait survécu, il mérite la gratitude due aux soldats valeureux. Je vais de ce pas au prison, il sera libéré sur l'heure, je vous en réponds. Il a de la chance défendue, il a de la chance d'être défendu par une aussi charmante personne. Vous êtes amoureuse d'un simple fantassin, vous auriez pu mettre à vos pieds bien des généraux. Voilà. Alors bien sûr, il est donc général Fournier va aller au prison où est incarcéré Fanette. Alors le geôlier est baptisé Thermidor. Alors Thermidor fait régner sa prison un climat de terreur largement toléré par les notables locaux qui n'y trouvent que des avantages. Fanette attend depuis une poignée d'heures lorsqu'il aperçoit une voix tonitruante qui reconnaît immédiatement général Fournier. Flanqué de son ordonnance, il s'adresse au gardien-chef qui le reçoit fraîchement. Pareil que tu retiens prisonnier un brave soldat de l'Empire, un de mes hommes, qui plus est, tu vas le libérer sur le champ, citoyen, farge tout, je m'en porte garant. Alors Thermidor fait la moue, il tergiverse un peu, tu reviendras demain soir, et puis il prend, farge tout, il le prend à la gorge, et puis il lui demande pourquoi il est incarcéré. Alors le jeune farge tout a été dénoncé aux autorités par quelqu'un de haut placé, mais je ne sais qui. « Eh bien, je crois que je ne suis pas mal placé non plus, dira tes commanditaires que le général Fournier en personne est venu le chercher. Je peux même te signer un reçu. » Alors, le gardien va libérer Fargetout, parce qu'il est pris un peu à la gorge, si l'on peut dire. Alors, alors bien sûr, il va lui demander de signer un reçu. Et puis, donc dans la cour crasseuse et grise, le général pousse devant lui Thermidor, qu'il fait placé à 30 pas, il lui ordonne de tendre le bras à l'équerre et présente le reçu du bout des doigts. Par un soupirail, les prisonniers pressant contre les barreaux, leur tête livide, aux yeux écarquillés, ne perdent rien du spectacle. D'affaire est en bas, Thermidor obéit et rentrant la tête dans les épaules, posément, Fournier prend son temps pour viser. Dès le premier coup de feu, la balle transperce le billet, laissant un trou rond comme une pièce de monnaie. Voilà ma signature, tes maîtres le reconnaîtront. Voilà. Alors, bien sûr, l'affaire ne va pas s'arrêter là. La personne qui voulait acheter donc cette ferme va le retrouver sur le marché de Sarlat. Alors, le marché de Sarlat occupe la quasi-totalité de la place du Pérou, que la cathédrale et haute maison ancienne enserrent sur le parvis. Alors, Charles Lignac, la personne qui en veut un autre brave soldat, vient de faire une entrée fracassante sur le parvis. Bravo-violemment, Fanette à partie. Enfin, je rappelle, c'est le soldat. Il brandit deux sabres qu'il jette sur le sol. Alors, Gam-Gam, c'est un des ours. Le plus effrayé par ses vociférations, se réfugie près de son maître. Tu es un traître, un déserteur. Tu as sali mon honneur. Il n'y a qu'un duel pour laver cet affront. Alors, bien sûr, le duel va quand même avoir lieu. Mais Fournier voit tout cela de sa fenêtre. Alors, Fournier descend 4 à 4 des escaliers de sa maison, croche un passage, une appée dans son fourreau, et il a repéré parmi les curieux deux domestiques de Lignac, qui ne sont sans doute pas venus sans raison. Alors, bien sûr, il va dire au premier qu'il va trouver, j'embauche le premier, qu'il se mêle de l'affaire, et les serviteurs en resteront là. Alors, Lignac, bien sûr, porte les premiers coups de sabre à Fanette, qui l'oblige à se battre, mais il va glisser. Ben c'est vrai que cette place, des fois, est par temps humide, est un peu glissante. Alors, comment je pourrais dire, il va tomber à la renverse, il va tomber à la renverse, et sa tête va heurter les marches de la cathédrale, et il ne mourra pas, mais restera paralysé. Alors, bien sûr, il y a une fin à cette histoire. Il conseille, bien sûr, aux jeunes, aux soldats, de prendre un peu de large. Et puis, il va fournir un accord, on lui donne une enveloppe grise en accord avec ces messieurs de présidial, et pour que tu ne sois pas inquiété, je te prépare à laisser passer, tu seras officiellement en mission pour mon compte, et sous mes ordres, jusqu'à nos retours, et j'ai réuni un pécule pour te soutenir. Alors bien sûr, il va y avoir une chute à cette histoire, qui va être imaginée par Patrick Saligné. Bon, je ne vais pas vous la donner, bien évidemment, le mieux, c'est de vous procurer ce livre, « La nuit de la mandragore » et autres nouvelles. Bien, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine et n'oubliez pas donc la nuit de la Mandragore. Au revoir et à la semaine prochaine.